Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Quelle est l'influence directe de la Révolution française sur le romantisme anglais ? C'est ce dont va nous parler Michael Parer, qui est directeur d'une collection rassemblant les plus beaux écrits, parfois oubliés, de personnages qui, en ce qui concerne Shelley et Byron, sont trop souvent méconnus en France. Michael Parer, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre venue à Canal Académie.
Merci à vous.
Et quels sont les rapports entre Byron et Shelley et ceux de la Révolution française ?
Eh bien, Byron et Shelley, donc les deux grands poètes romantiques de la seconde génération, donc qui viennent après Wordsworth et Coleridge, sont deux grands amis, bien sûr. Et c'est pourquoi nous les avons réunis dans ce petit ouvrage qui s'appelle « Écrits romantiques et rebelles », texte choisi de Byron et Shelley. Et ils avaient pour particularité non seulement d'être des romantiques et des lyriques, mais en plus d'être des poètes politiques et engagés. Ce qu'on dit peu, parce que quand on présente le romantisme, on le présente généralement toujours sous son aspect exclusif de sensibilité. Et on a l'impression, on donne l'impression que cette sensibilité n'est qu'individuelle, alors que la sensibilité de ces hommes et de ces poètes était justement collective. Et c'est par ce biais de la sensibilité collective, c'est ce qui les relie à la politique, et plus particulièrement à la Révolution française, parce qu'il se trouve que l'un et l'autre étaient favorables, dans une période où pourtant l'Angleterre était en guerre contre la France, l'un à la Révolution française, à son esprit, donc à l'esprit de 1789 et même de 1793, c'est Shelley, et l'autre à Napoléon, on imagine, c'est
pareil, l'ogre.
Incroyable, exactement, en pleine guerre napoléonienne.
Hein, oui, c'est pour ça que je parle d'ogre.
Oui, tout à fait, oui, puisqu'il est considéré là-bas comme un ogre.
Dieu sait si elles étaient anti-françaises et anti-napoléoniennes.
Tout à fait. Et alors donc, ce qui est intéressant quand on étudie le romantisme anglais, c'est de voir comment Byron et Shelley vont continuer, en fait, là où Wordsworth et Coleridge s'arrêtent. Parce que Wordsworth et Coleridge, eux aussi, se sont intéressés à la Révolution française. Et puis, quand la guerre a été ouverte entre les deux pays, ils ont arrêté. Mais la particularité des deux auteurs dont je vais parler, donc de Lord Byron, à la fois dramaturge et poète, et de Percy Bysshe Shelley, c'est que eux vont enfoncer le clou, au contraire. Et vont se déclarer en rupture avec leur société, et d'une certaine manière, plus que d'une certaine manière, avec leur classe. Lord Byron appartenait à la très grande aristocratie anglaise. Il était descendant, en fait, des Biron qui avaient, avec Guillaume le Conquérant, conquis l'Angleterre. Donc, c'est une très vieille famille, noblesse très ancienne. Bien sûr, il était député Whig à la Chambre des Lords, et son engagement politique à faire qu'il va être contraint à l'exil, d'autant que lui-même avait à titre personnel des particularités un peu singulières, et donc de fil en aiguille, il va être obligé de partir et de s'exiler. Et Shelley, lui, c'est un petit peu le même type de rupture avec sa classe, et en l'occurrence avec son père, puisqu'il était le fils d'une famille extrêmement riche, il a tout refusé de l'argent qui lui était proposé, ainsi que de la situation sociale à venir, et lui était carrément athée. Et il a rompu, et on le voit aussi dans ses poèmes, avec sa classe, et il a choisi la poésie et la liberté contre le confort de l'argent.
Poète maudit.
Poète maudit, tout à fait, parce que poète de l'exil. Et d'ailleurs, les deux hommes vont se rencontrer en exil, en Suisse. Byron est obligé de partir parce que ses frasques sexuelles le font mettre au banc de la société, ainsi que son engagement politique. Et Shelley, lui, a un souci important qui est lié au fait qu'il est athée, et qu'il perd ses droits de paternité du fait qu'il est athée, et qu'il l'a écrit dans un ouvrage dont nous avons donné la traduction dans ce petit regroupement de textes, qui s'appelle « Nécessité de l'athéisme », qui est le premier grand texte athée, à ma connaissance, de langue anglaise. Donc nous avons donné d'ailleurs à connaître la version revue augmentée de 1813. Et donc, il y a, quand on étudie la poésie de Shelley, le parcours intellectuel et philosophique de Shelley, des choses passionnantes, et pour ce qui est de son rapport plus particulier avec la France, il y a plus particulièrement donc, c'est une série de textes qu'il a écrits, notamment une déclaration des droits, qui est assez incroyable, puisqu'en fait il a voulu réécrire la déclaration des droits de l'homme de 89, mais cette déclaration des droits est beaucoup plus radicale encore que ne l'est la déclaration des
droits
de l'homme.
Parce qu'elle s'est inspirée aussi de la constitution de 1793, c'est
oui,
pour
c'est ça
qu'il l'a radicalisée.
Oui, ça participe je pense de cette radicalisation, Parce que, en effet, dans la Constitution de 93, il y a un certain nombre d'éléments qui font droit au bonheur, à l'existence, qui parlaient beaucoup à Shelley. Et aussi parce que il a été, lui, à titre personnel, sous l'influence de William Godwin, qui est toujours considéré en Angleterre comme le père de la pensée de la philosophie libertaire anglaise. Et il s'est d'ailleurs marié ensuite avec la fille de William Godwin, qui s'appelle Mary Shelley, qui s'appelait Mary Godwin, donc, et qu'il a enlevé à son père pour partir avec elle et finalement pour se marier. Et la particularité aussi donc de Shelley, c'est en matière politique, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il était athée, ça pourrait être une position éthique, mais en matière politique, c'est un, plus encore qu'un révolté, c'est un révolutionnaire, et il a beaucoup de ses textes se réclame de cette idée, notamment cette fameuse déclaration des droits.
Vous allez nous en lire quelques articles.
Oui, je pense que c'est très intéressant, en effet, d'en lire quelques articles pour comprendre la nouveauté et aussi la radicalité, justement, de son point de vue. Je pense qu'on peut choisir quatre thèmes, celui de la liberté et du pouvoir, quelle place pour la liberté de l'individu, quelle place pour le pouvoir dans la société à venir, celui de l'égalité, celui de la fraternité et celui du bonheur. Voilà des thèmes qui, à mon avis, illustrent assez le point de vue que Shelley pouvait avoir sur, justement, ce que sont les droits de l'homme et sur le type de société à laquelle ils doivent donner naissance. Alors, il écrit par exemple dans sa déclaration des droits, c'est l'article 1, « L'État n'a aucun droit. Il doit son existence à la délégation qu'un nombre important de personnes lui ont accordée pour qu'il assure leur sécurité. De cela découle sa légitimité, du moins tant qu'il existe par le consentement de ces personnes et reste utile tant que son action va dans le sens de leur bien-être. »
Quel progressiste !
Oui, quel progressiste. Dès le premier article, on voit quelqu'un qui, sous l'influence des idées de Rousseau, parce qu'on voit que l'idée qui est sous-jacente, bien sûr, c'est l'idée rousseauiste, à savoir que l'État ne peut avoir de légitimité que dans le cadre d'un contrat social qui unit...
Souveraineté du peuple.
Voilà, souveraineté du peuple qui unit justement le peuple et les individus, et qui ne légitime l'action de l'État qu'en fonction, justement, de la volonté du peuple. Et cette idée qui est née avec la philosophie des Lumières françaises, enfin... on peut lui trouver des antécédents, mais qui est apparu à ce moment-là de manière déterminante et qui va entrer en scène avec la Révolution française elle-même. Donc il l'incorpore, et pour la radicaliser, parce qu'on le voit par exemple dire dans l'article 2, toujours sur le même thème, si ces individus, donc les individus qui composent la société, pensent que la forme de gouvernement qu'eux ou leurs ancêtres ont constituée est désormais incapable de leur apporter le bonheur, ils ont le droit de la changer. Et voilà un deuxième article où on voit de nouveau l'idée du bonheur. Hein. Il disait bien-être dans le premier article, donc c'est l'idée d'un bien-être matériel aussi, mais il y a l'idée d'un droit au bonheur. Il y a l'idée que dans l'existence, on peut demander plus simplement que, je dirais, la sécurité, parce qu'il dit dans l'article 1 que l'État est là pour assurer une forme de sécurité, mais il dit plus, il est là aussi pour assurer le bonheur des gens. Et s'il ne le fait pas, sa légitimité est nulle. On imagine quand même ce que ça pouvait valoir comme type de critique que d'écrire une chose pareille en 1812.
Ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y avait des révolutionnaires qui, évidemment, avaient déjà eu cette idée, puisque les révolutionnaires pratiquaient aussi l'idéologie du bonheur des autres.
Oui, complètement. Cette idée, elle court, en effet, à partir du XVIIIe siècle et avec la Révolution française. Et des gens comme Shelley vont la pousser à un degré qui, à mon avis, pour leur période, est inégalé et qui explique d'ailleurs que Shelley, qui est aujourd'hui un des poètes les plus reconnus dans l'histoire littéraire anglaise, ne l'ait pas été à l'époque. Puisqu'à l'époque, il était banni, ostracisé, personne ne voulait parler de lui, ses publications n'étaient pas connues, il vendait quelques centaines d'exemplaires de ses livres, sous trois fois rien.
Nul n'est prophète en son pays, au moment où... avec ses contemporains en tout cas.
Exactement, exactement.
Qu'est-ce que vous avez encore comme article à nous évoquer pour voir la pensée de Shelley ?
Alors, pour voir la pensée de Shelley, je pense qu'il y a un autre très bel article sur le thème de la fraternité. L'article 24 dit par exemple... Un chrétien, un déiste, un turc et un juif ont des droits égaux. Ils sont hommes et ils sont frères. Là aussi, à la fois, je dirais, on voit l'esprit universel de Shelley qui se manifeste. Oui. Sa haine particulière, enfin son refus de toute forme de dogmatisme, de l'intolérance en général et sa volonté de réunir les gens dans un même idéal fraternel. Et ça, je trouve que c'est, en plus, c'est la particularité aussi des textes que nous avons choisis pour ces auteurs, c'est toujours d'actualité et ça me paraît important de rappeler ces valeurs-là aujourd'hui comme hier. De la même manière, dans l'article 20, il dit « Tout homme, quel que soit son pays d'origine, dispose des mêmes droits, quel que soit l'endroit où il se trouve, les droits de la citoyenneté universelle. » Là aussi, ce sont des valeurs qui sont mises en avant, qui, je trouve, feraient bien d'être réactualisées en ce moment.
Cet article me fait penser à ce dont nous allons parler dans une future émission, Lamartine et Victor Hugo et l'abolition de l'esclavage. tout ceci était évidemment dans l'air du temps, dont tous les philosophes, poètes engagés.
Oui, c'était dans l'air du temps. Et en même temps, je pense que dans le cas de Schelles, je ne l'ai jamais vu exprimer avec cette intensité-là, parce que peut-être plus encore que Lamartine, qui était véritablement un poète et un écrivain, Schelles a aussi une dimension philosophique. C'est très net chez lui. Il y a une manière quasi déductive de présenter un certain nombre d'idées, de principes, et d'en déduire des conséquences, et de proposer une vision cohérente du monde à partir des conséquences qu'on peut tirer des grands principes, par exemple l'universel des droits de l'homme, qui va loin. Et Lamartine, bien sûr, va rejoindre d'une certaine façon cet esprit-là, mais Schelles l'a fait, et Byron l'ont fait de manière très avant-gardiste. Ils étaient très en avance sur leur temps, et je pense d'ailleurs aussi que c'est pour ça qu'ils sont morts si jeunes, parce qu'ils étaient tellement en avance et dans une situation d'avant-garde qu'ils se sont retrouvés complètement isolés. Et à la fin, l'issue de tout ça, ça ne pouvait être que, d'une certaine manière, une tentative de combat désespéré. Au bout du chemin, il y avait leur propre mort. Et ils le savaient d'ailleurs. C'est assez intéressant, quand on étudie leur vie, de voir qu'ils ont senti qu'ils n'iraient pas beaucoup plus loin que l'endroit où ils allaient aller et que ça se terminerait mal pour eux.
Oui, c'est très beau ce que vous dites, parce qu'en fait, leur désespoir, à l'image du rejet qu'ils ont subi de la part de leur pays, de leurs concitoyens.
Oui, d'une certaine manière, c'est intéressant. Ils y ont à la fois puisé leur force et en même temps, bien sûr, la conscience qu'ils avaient d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, des poètes maudits. Et je pense qu'ils incarnent vraiment l'image du poète maudit. Ce sont les deux premiers véritables poètes maudits.
Parlons de Byron maintenant, parce que il serait à l'origine du théâtre romantique français, lui, Byron ?
Alors oui, dans une perspective de littérature comparée, je crois qu'il est intéressant de relire le théâtre de Byron, bien sûr aussi ses poèmes et puis aussi les discours qu'il a pu faire à la Chambre des Lords, dans le cadre du théâtre, parce que quand on lit les pièces de théâtre de Byron, on a le sentiment qu'elles sont directement à la source de l'inspiration, par exemple, du théâtre romantique de Hugo. La différence simplement dans le style, c'est que Byron maintient la règle des trois unités, donc de manière classique, mais le fond et la mise en scène des personnages, elle, n'est pas classique. Et les histoires ne sont pas classiques. Les sentiments qui sont exprimés dans les pièces ne sont pas classiques. Et d'une certaine manière, ce que quelqu'un comme Hugo va faire après, à mon sens, avoir lu, en tout cas je pense que c'est une hypothèse qui peut être intéressante, avoir lu les pièces de Byron qui étaient traduites à l'époque, puisque Byron, contrairement à Shelley, était un poète et un dramaturge extrêmement connu, même si lui aussi a dû partir.
Il a été ostracisé aussi, lui.
Il a été ostracisé, mais il a eu, lui, un très grand moment de célébrité. D'une certaine manière, il a été une espèce de rockstar de la poésie à son époque.
Mais quand vous parlez de la façon dont Byron respectait les règles des trois unités, mais toutefois, il y avait tout un monde foisonnant, c'était quand même un peu shakespearien. Le théâtre shakespearien a nourri Byron.
Le théâtre shakespearien a nourri Byron, c'est évident. Et en général, ce qui m'intéresse la plus particulièrement, si on s'intéresse à ce sujet-là, c'est qu'il a constitué, à mon avis, une étape, en tout cas pour l'écriture, le théâtre français romantique. Il a permis justement le passage, l'intégration du théâtre de Shakespeare dans le théâtre romantique.
Rôle très important pour toute la littérature universelle.
Rôle déterminant, exactement, tout à fait. Et donc, si on veut parler donc, de Byron, poète républicain et révolutionnaire, il faut mettre en avant, je pense, plusieurs choses. D'abord, comme on l'a dit, c'est un républicain. Alors, c'est quand même étonnant, parce que voilà un lord anglais, issu de la plus grande tradition, en fait, donc la vieille aristocratie anglaise, qui se proclame républicain. Je ne sais pas si on mesure bien le genre...
Conflit de génération que ça a fait chez lui,
exactement.
Au sein de la famille.
Oui, oui. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que, d'une certaine manière, au début, il n'était pas tout à fait comme ça. Et il va se radicaliser d'autant plus au contact de Shelley. C'est-à-dire que le souffle révolutionnaire qu'on sent et le souffle de la liberté qu'on sent dans les grandes pièces de Byron est lié à ses discussions avec Shelley. Et d'ailleurs, au tout début, quand ils se sont rencontrés en Suisse en 1816, autour du lac de Genève, ils ont discuté un petit peu, tous les deux étaient en exil, pour des raisons, comme j'ai expliqué, un peu différentes, mais ils se sont retrouvés en situation d'exil, contraint. Byron est un petit peu à la recherche de quelque chose, il cherche quelque chose, mais il ne sait pas, il est un peu perdu. Et il rencontre Shelley, les deux hommes se plaisent, et en même temps, au début, Byron est un petit peu embêté parce qu'il voit quand même que Shelley est un démocrate qui va loin, tellement loin qu'il proclame l'égalité et la liberté de tout le monde, enfin qui va vraiment très très loin dans la contestation de, j'ai envie de dire, de l'ordre en place. Et ça va dans un premier temps l'amuser, Et il va peut-être pas le prendre tout à fait au sérieux. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, il va quand même, ça va tellement l'imprégner que on ne peut pas, à mon avis, lire son théâtre et toutes les grandes pièces qu'il a écrites, je pense notamment au Manfred ou à Caïn, sans justement tenir compte de l'influence de Shelley sur Byron et justement de l'influence de cette philosophie de la liberté qui était celle de Shelley sur le Byron de l'exil, qui va devenir en fait le grand poète qu'on connaît, enfin celui qu'on a retenu, même si bien sûr, avant de partir en exil, il était déjà célèbre comme poète.
Dans le théâtre de Byron, l'homme révolté clame son besoin essentiel de la liberté, essentiel au sens étymologique du terme. Et quel pessimisme ! Manfred et Caïn semblent les autoportraits de l'auteur.
Oui, il y a beaucoup de choses donc, dans la poésie de Byron. Alors si on veut illustrer justement cette dimension contestataire et radicalement critique de sa poésie, il y a plusieurs poèmes qui peuvent être lus. Moi, j'en ai choisi quelques-uns dans ce regroupement. Là, un poème très court, qui donne assez bien le ton, je trouve. Ça s'appelle « Sonnet sur Chillon ». C'est l'histoire de Bonivard, donc un martyr républicain genevois emprisonné à Chillon, qui se trouve rapporté par Rousseau dans la Nouvelle-Héloïse. Les deux hommes aimaient beaucoup Rousseau et la Nouvelle-Héloïse. Dans ce poème, écrit en 1816, donc Byron fait de Chillon le symbole de la liberté persécutée. Donc on voit apparaître le thème de la liberté. Alors voilà ce qu'il dit. « Génie éternel de l'âme, que les chaînes ne peuvent atteindre, liberté. Ton éclat est plus brillant dans les cachots, car tu y fais ta demeure du cœur que ton seul amour enchaîne. Et, lorsque tes enfants sont chargés de fer et plongés dans l'humide obscurité d'un souterrain, leur patrie triomphe par leur martyre, et l'indépendance emprunte des ailes à tous les vents. Ô Chillon, tu es un lieu sacré, le triste pavé de ta prison est un autel, car il conserve la trace des pas de Bonivard, comme si ces froides pierres étaient une terre flexible, que ces traces soient ineffaçables, elles en appellent à Dieu de la tyrannie des hommes. » Voilà un assez beau poème, je trouve, un sonnet très court et très bien traduit par Amédée Pichot, parce que ça, c'est, nous avons repris la traduction du XIXe siècle, celle qu'ont lue des romantiques français, donc Lamartine et Victor Hugo, parce que je la trouve, c'est de la poésie en prose.
Oui, mais c'est très difficile de traduire la poésie.
C'est très difficile et le traducteur du XIXe siècle l'a fait de manière merveilleuse. Moi, je trouve que sa traduction est exceptionnelle et je conseille, si c'est possible aux auditeurs et aux lecteurs, de relire Byron dans cette traduction. À mon avis, c'est la meilleure. Alors voilà un exemple de poème qui donne assez le ton. Dans un autre poème qu'on a choisi, Byron fait l'éloge de Venise, donc la République de Venise. Et puis bien sûr, Byron, comme Shelley, sont très intéressés par la figure de Prométhée. Alors Prométhée...
Le titan.
Voilà, c'est le titan condamné par Jupiter pour avoir apporté le secret du feu aux hommes. Et il fascinait Byron parce que pour lui et Shelley, parce qu'il incarne la condition humaine. Et cette double condition d'ailleurs, l'homme prisonnier de l'environnement dans lequel il se trouve, et plus particulièrement de l'environnement politique et despotique dans lequel il se trouve. Il ne faut pas oublier qu'ils évoluent dans une société anglaise pré-victorienne et dans l'Europe de Metternich. Donc on est dans une période historique où vraiment l'esprit de la Révolution est mort et c'est la restauration et la réaction la plus complète qui sévissent en Europe partout. Et c'est contre ça qu'ils vont se dresser. Alors, on peut lire par exemple le début du poème Prométhée de Byron. Il dit « Titan, les souffrances de la race humaine vues par tes yeux immortels dans leur triste réalité ne furent pas pour toi, comme pour les dieux, un objet de dédain. Quelle récompense obtint ta généreuse pitié ? Un supplice affreux supporté en silence ? Un roc, le vautour et les fers, tout ce que la fierté peut endurer de peine, les transes qu'elle dissimule, le sentiment accablant de la douleur qui ne parle que dans la solitude, craignant encore que le ciel ne l'écoute, et ne soupirant que lorsque sa voix est sans écho. » Oui, puisque Prométhée a apporté le secret du feu aux hommes et leur a permis de sortir d'une certaine condition, hein, une condition où ils étaient en situation d'infériorité. Et évidemment, il le paye cher puisque son foie est dévoré, il est puni par les dieux. Voilà, bien sûr, les dieux, en fait, il faut lire les choses de manière analogique. En fait, les dieux, ce sont les gouvernements réactionnaires de son époque et les hommes qui tentent quelque chose, ben, c'est ceux à qui s'identifient à la fois Byron et Shelley. Et puis, par exemple, ça va être, un peu plus tard, aussi bien pour l'un comme pour l'autre, la révolte des Grecs.
Mais le mythe de Prométhée est effectivement un mythe, alors là, totalement universel, puisque, comme vous dites, on fait des analogies et on voit toujours qui écrase qui. Et l'homme, toujours, est écrasé.
Voilà, exactement. Et il est utilisé à chaque fois, donc là, il y a une signification politique à toute cette écriture. Et je pense que c'est ce que notre recueil permet de voir, c'est-à-dire que vraiment, on dépasse complètement la lecture, je dirais, de premier niveau, en fait, des grands poèmes de Byron ou des grands poèmes de Shelley. En général, on les lit comme de... Je prends l'exemple de Shelley. On les lit comme des poèmes sur la nature, des poèmes lyriques, des poèmes aussi sur l'expression de la souffrance du moi. Mais même s'il y a ça, c'est loin de se limiter à ça. Et en fait, il y a un souffle politique et révolutionnaire derrière qui est directement en prise, comme on l'a vu avec l'histoire de la Révolution française et tous les événements qui en ont découlé.
Puisqu'il faut bien choisir, quels sont les poèmes de Byron qui, à votre avis, illustrent particulièrement sa poésie philosophique et politique ? Les thèmes existentiels qu'il évoque quand il parle de la condition humaine, quelles sont les conditions de l'homme révolté, quels sont les textes qui peuvent y montrer tout ça?
Oui, on peut lire encore un peu, bien sûr, de Byron. Il y a, je pense, dans le théâtre de Byron, des choses particulièrement intéressantes, puisqu'on parlait de conditions humaines et du problème de la liberté. Moi, j'ai particulièrement apprécié sa pièce qui s'appelle Manfred. Et le Manfred, en fait, de Byron, c'est l'équivalent du Faust de Goethe. Mais
encore un autre mythe.
Encore un autre mythe, exactement. Mais la particularité du Manfred, c'est qu'il incarne vraiment la liberté. C'est-à-dire qu'il va beaucoup plus loin que Goethe. Le Faust de Goethe, en fait, d'une certaine manière, correspond aussi à la sensibilité de Goethe. Il ne va pas jusqu'à tout refuser. Or, la particularité du Manfred de Byron, ou de son cas, c'est qu'il refuse tout. Et si on prend le cas de Manfred, on peut lire par exemple de... C'est la fin de la pièce hein, qu'on a donnée à lire et qui est aussi dans la traduction d'Amédée Pichot, donc que je trouve toujours aussi excellente. Voilà ce qu'il dit, voilà comment ça se passe, Manfred est en train de mourir et les esprits viennent le chercher. Et voilà, l'esprit lui dit « Mortel rebelle, es-tu bien ce magicien qui osa s'élancer dans le monde invisible et devenir presque notre égal ? Est-ce bien toi qui tiens si fortement à une vie qui t'a été si funeste ?» Réponse de Manfred. « Esprit imposteur, tu mens. La dernière heure de ma vie a sonné, je le sais, et je ne voudrais pas en racheter un instant. Ce n'est pas contre la mort que je lutte, c'est contre toi et les anges de ton cortège. Ce ne fut point un pacte avec toi et les tiens qui m'acquit un pouvoir surnaturel. Ce fut ma science supérieure, mes privations, mon audace, mes longues veilles, ma force d'âme et mon habileté dans les secrets de ces anciens temps où la terre voyait les hommes et les esprits marcher de pair et ignorait d'injustes privilèges. Je suis fort de ma propre force, je vous défie et je vous méprise. »
C'est beaucoup plus fort, effectivement, que tout ce que Goethe a pu évoquer. Au début était l'action, où était le verbe. Ça tourne autour toujours des idées philosophiques, tandis que là, c'est presque un coup de poing.
Exactement. C'est un coup de poing. C'est un coup de poing à toute forme d'oppression. C'est un homme qui, alors qu'il n'est pas athée, c'est très intéressant. Byron, c'est un, au plan, je dirais, de sa sensibilité religieuse, c'est une espèce de... C'est presque, oui, on pourrait dire un personnage, en fait, c'est plus qu'hétérodoxe, en fait. Il n'est pas religieux, il l'est à sa façon, c'est un pessimiste, en fait, qui refuse la figure du destin qui s'abat sur lui et le poids de la religion. C'est un peu particulier, quand même. Et ça a dû rendre possible aussi ce pessimisme qui est le sien, en même temps que son esprit de révolte, la synthèse et le lien avec Shelley, qui lui était directement athée.
Un petit texte sur Cain, avant qu'on ne conclue ?
Oui, alors Cain, de la même façon, on voit dans un texte donc qui met en scène l'histoire de Cain, on voit là aussi toujours cette même idée, hein, cette idée d'un héros qui refuse de se soumettre devant l'autorité. Et alors là, on a une discussion entre Cain et Lucifer. Donc voilà ce que dit Lucifer. « Et moi qui connais tout, je ne redoute rien, telle est la vraie science. » Cain lui répond « Veux-tu m'instruire de tout ?» Lucifer « Oui, à une condition. » Cain « Laquelle ?» Lucifer « Que tu te prosterneras et m'adoreras comme ton maître. » Cain, tu n'es pas le maître qu'adorent mes parents ? Lucifer, non. Cain, es-tu son égal ? Non. Je n'ai rien de commun avec lui et ne m'en soucie pas. Je voudrais être au-dessus, au-dessous, tout enfin plutôt que de partager son pouvoir ou d'en être l'esclave. Je demeure à part, mais je suis grand. Il en est plusieurs qui m'adorent, un plus grand nombre le fera, soit des premiers. Et la réponse de Cain, je n'ai jamais jusqu'à présent fléchi le genou devant le dieu de mon père, quoique mon frère Abel me supplie souvent de me joindre à lui dans ses sacrifices. Pourquoi m'humilierais-je devant toi ?
Oui, on voit que les héros de Byron sont libres par-delà le bien et par-delà le mal.
Exactement. C'est un refus aussi bien du dieu bon que du diable.
Merci beaucoup, Michael.
Je vous en prie.
Parer.